Alors, moi, je suis né dans une ferme, dans le Haut-Val-Espire. J'ai été à l'école et je voulais être pilote d'aviation. Et mon père a dit, toi, tu feras comme tes frères, tu te débrouilleras. Alors, je me suis cherché une place d'apprenti charcutier. Et j'ai débuté en tant qu'apprenti le 1er septembre 1946. Et là, je faisais tout. On faisait les abattages aux abattoirs, aux anciens abattoirs. On se faisait les abattages. On tuait à l'époque 24-30 cochons par semaine. On était deux employés à la fabrication. Et le patron, lui, il était sur le marché de la République. Et la patronne, elle était au magasin. Henri, ça s'appelle. Je crois qu'il y a toujours un magasin. Et au retour de l'armée, j'ai trouvé que mon patron ne me payait pas assez. Alors il m'a dit, tu reviens travailler. Je dis non, je ne reviens plus travailler chez vous parce que vous ne me payez pas assez. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi je vous achète la ferme. Oui, mais je veux qu'on me paye content. Je dis, vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Je vous payerai content. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé les fonds et j'ai payé content. J'ai monté un magasin. J'ai été voir à l'époque SPF qui était là où on faisait les chambres froides. Donc dans une maison, on fait construire des chambres froides, un laboratoire climatisé, tout ce qu'il y a de plus moderne pour l'époque. Et là, je travaillais, j'achetais les cochons aux meilleurs endroits d'élevage. C'était, et ça continue de l'être toujours, c'était l'Allier et la Corrèze. Et je reçois toujours mes cochons de là. Donc à l'époque où j'ai débuté, j'ai de suite monté un magasin et conservé le marché. Et de là, j'ai monté une équipe de personnel. J'ai été à l'époque où s'est monté Escala Perpignan, j'ai été le premier fournisseur d'Escala. Je fournissais des restaurants, je faisais traiteur, j'avais 12 employés à l'époque. Je suis arrivé à 12 employés. Et puis par la suite, il s'est monté les grandes surfaces, et les grandes surfaces de plus en plus exigeantes. J'ai dit, non, moi, ce que vous me demandez, je ne vais pas vous le faire. Relevé fin de mois, paiement 90 jours après, ça me faisait trop pour moi. Alors, et en plus, ils ont fait la boucherie, ils voulaient que je leur achète les gras pour fabriquer des merguez. Je dis non, moi vos produits, je n'en veux pas. Je fais des produits de ma fabrication, je vous les vends au prix où cela me convient. Si ça ne vous convient pas, vous, eh bien, cherchez-vous un autre fournisseur. Voilà, et je conservais toujours le... avec une dizaine d'employés, on a vraiment fabriqué et vendu des tonnes et des tonnes de saucisses et de côtelettes. On a fabriqué les produits régionaux, côtelettes, donc ça c'est le produit classique que tous les charcutiers ou tous les bouchers vendent. Mais après il y a les fabrications catalanes, les produits de la ferme, qui sont le pâté de montagne, le pâté classique de montagne, fabriqué comme à la ferme et on le fabrique encore aujourd'hui comme à la ferme. Les boudins, toutes catégories comme à la ferme, les saucissons comme à la ferme, les jambons fabriqués et salés au sel sec et séchés. J'ai fait construire des salles de séchage. Ces salles de séchage existent toujours et je m'en sers toujours pour l'instant.
Alors comment vous faites par exemple, comment on fait un pâté ou comment on fait un boudin?
Un boudin, ça se fait avec le boudin, il y a plusieurs catégories de boudin. Vous avez le boudin classique noir, qui se fait avec des viandes de tête, les gros dios noirs, on les coupe à la main avec des gros morceaux, assez des morceaux moyens, et on met de la viande et un peu de sang pour les colorer. Et on les fait dans des gros boyaux, et ça fait des tranches de boudin catalan pour faire des entrées. Ensuite, vous avez le petit boudin noir catalan, qu'on passe les viandes au hachoir, avec des viandes, un peu de coin, tout cuit, et on met du sang, et alors là, on fait le petit boudin classique catalan. Et on fait aussi le petit boudin blanc catalan, le boudin blanc qu'on fabrique avec des viandes de tête hachées, et on y met 2 œufs par kilo. Voilà. Et là aussi, on l'emboutit, c'est le boudin blanc catalan. Et ensuite, on fait le boudin gourmand catalan. Là, c'est une sélection de viande gourmande. C'est une sélection de viande que l'on choisit avec ses connaissances. Là, je ne dévoile pas le secret du boudin gourmand. Ça s'appelle le boudin gourmand. Ce sont, à la ferme, on se tuait 10 cochons à l'époque. On était 5 enfants et on avait des employés, des bergers, des vachers, on avait de tout. Et alors, on commençait, on mangeait d'abord le petit boudin noir, ensuite le boudin noir moyen, ensuite le gros boudin noir, et ensuite, pendant les travaux des champs de l'été, on consommait le boudin gourmand, ce fameux boudin gourmand que je fabrique toujours.
Donc vous faisiez ce qu'on appelle la matanza del porc ?
La matanza del porc, ah si, et oui, on se les faisait d'une ferme à l'autre. Hein.
Alors comment ça se passait ? Ça se fait toujours ?
Il n'y a plus personne dans ces fermes, toutes ces fermes sont abandonnées. La matanza del porc, chaque ferme choisissait son jour d'abattage, et c'était, ça se faisait en décembre et en janvier. Et alors, on s'invitait. Et les enfants, quand dans les familles on était nombreux, toi et toi, tu iras à la matanza del porc de telle ferme, toi et toi, tu iras à telle ferme, et toi et toi, tu iras à l'autre ferme, voyez? Parce que la matanza del porc dans les fermes du Val-Espire, c'était un jour de fête, un jour de travail, mais considéré comme un jour de fête. On avait la rosette de l'année avant qu'on consommait. La veille de la matanza del porc, on faisait déjà l'aioli. Et le matin, c'était la casse-croûte matinale, avec la rosette de l'an passé et l'aioli et la tranche de jambon. Voilà. Et à midi, on avait tué le coq, el gall que guardaven pel matar del porc, en català on dit ça, el gall que guardaven pel matar del porc. Guardaven un gall pel matar del porc, un gall per Nadal i un gall per la festa del vilatge. Alors ça, ce sont des traditions típiques catalanes. Hélas, les fermes ont disparu. Moi, de la ferme, je suis parti, mon frère est parti, tout le monde est parti. Dans toutes les fermes, ça s'est passé comme ça. Les enfants sont partis, chacun a pris sa destination. Et les fermes, ça a été acheté par des Belges, par des Allemands, par des Hollandais, et sont abandonnés. La ferme où j'habitais quand je suis parti apprenti, l'année dernière, la toiture s'est envolée avec le vent. Donc, il ne reste plus que 4 ruines de carcasse.
Et sinon, vous avez d'autres spécialités ? Vous parliez des pâtés.
Le pâté, on fait les pâtés classiques. Oui, on fait.
Comment ça se fait ?
Le pâté de porc, ça se fait avec du foie de porc, de la gorge de porc, des œufs, le tout haché, bien mélangé, et on le met dans une terrine, enveloppé dans une crépine, et on le fait cuire au four. Ou dans l'époque, on le faisait cuire parce que on le faisait cuire soit si on faisait parce qu'à la montagne on avait le four à pain, ça pouvait cuire dans le four à pain, ou alors on le faisait cuire à l'époque là-haut au bain-marie. Mais la plupart du temps, si on avait l'occasion d'allumer le four à pain, on le faisait cuire dans le four à pain. Et nous, actuellement, on le fait tout dans les fours électriques et dans des chaudières électriques. C'est tout électrique maintenant.
Mais vous faites quand même toujours les mêmes produits, donc ?
On fait toujours les mêmes produits, on fait. Donc, toute la catégorie des charcuteries fabriquées catalanes. On fait tous les jambons, on fait tous les saucissons, on se fabrique tout. On fait les jambons cuits. Moi, j'ai été le premier fabricant de jambons cuits dans la région. Je fabriquais à l'époque 120 jambons cuits par semaine. Je les fournissais à la plupart des charcutiers de la région qui ne se les fabriquaient pas encore à l'époque. J'avais un don, paraît-il. J'ai toujours un don, paraît-il, pour les jambons et les saucissons. Je l'ai et je le conserve.
C'est un savoir-faire donc que vous avez.
C'est un savoir-faire, oui.
Depuis
longtemps, voilà.
Et comment on fait un jambon cuit ? Ça se passe comment ?
Un jambon cuit, vous prenez un jambon d'un cochon. Alors, si vous le faites avec l'os, on enlève la couenne et l'os. Un os du bout du jambon, et ensuite on le prépare avec une salaison, on fait comme une espèce de salaison, et on le laisse macérer pendant 8 jours. Ensuite on le rince bien et on le met à cuire. Alors, si c'est pour faire des jambons sans os, on les désosse avant de les faire cuire, et on les moule, on a des moules à jambon, des moules d'une grosseur d'un jambon qui se pressent. On met le jambon dans un grand moule. Il y a un couvercle avec un bouchon et un gros comme dessus, ça fait comme un tire-bouchon, voyez, ça fait pressoir. Au fur et à mesure que ça cuit, Donc la pression descend. Et on a un jambon qui fait naturel, des jambons qui sont jambons cuits, qui sont naturels et qui sont excellents comme vous.
Est-ce qu'il y a des périodes spécifiques où on fait la charcuterie, par exemple, où on fait des jambons?
Non, moi, les jambons, tous ces produits-là, on les fait toute l'année. Là où c'était spécifique, c'était à l'époque des fermes, où on ne fabriquait ça que deux fois par an. Une fois, parce que là où on était nombreux, on faisait deux matances de porc. On faisait une matance au mois de décembre et une matance fin janvier.
Donc, c'était comment ça se déroulait, la matance?
La matance, bon, c'était des cochons qu'on s'élevait nous-mêmes. Donc le jour où on avait décidé, et bien, le soir, on donnait pas à manger aux cochons, et le matin, allez, on les attrapait, on avait les chaudières d'eau qui bouillaient, on les attrapait, on les saignait au couteau, comme ça, on les couchait sur la pastère, comme on disait, et on avait l'eau qui bouillait, et des seaux d'eau bouillante pour les peler. On les pelait à l'eau chaude. Le poil et un petit peu les filaments qu'il y a avec le poil, tout partait, bien gratté, voilà. Et après on ouvrait le cochon en deux et on découpait les cochons, les jambons, les ventrèches, les lards, les coustillous, les pieds, les têtes, tout était découpé. Et chaque morceau allait là où c'était prévu qu'il devait aller. On faisait des confits de porc, vous voyez? Ah oui, oui, dans un cochon, il n'y a rien qui se perd. Dans la tête, à la queue, il est fameux et tout le monde en veut.
Même les pieds.
Même les pieds. Ah oui, ah oui. Eh, même ici, j'en ai de cuit, j'en ai de cru. Des oreilles, de tout, tout est bon. Hein.
Et il y a une façon de préparer les pieds de cochon?
Oh non, les pieds de cochon, on les fait cuire classique. Ouais, on les fait cuire classique. Et de tout, c'est pareil. On le fait cuire à petit feu pour que ça ne se dépiote pas. Et ensuite, quand on le sort que c'est bien cuit, on le met dans des moules. Ou dans des terrines, de tout c'est pareil. On les arrange bien pour que ça garde des formes, que quand c'est froid, qu'on puisse le couper comme le client y veut.